Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus hein, pour passer ce temps ensemble à réfléchir un peu et à prier, à ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu, comme je disais tout à l'heure, avec cette grâce qui nous est faite du sacrement de la confession. Alors, parler du sacrement de la confession, ça relève toujours de quelque chose d'un peu difficile, parce que le sacrement de confession est le grand sacrement mal aimé, si vous voulez, aujourd'hui, hein, dans l'Église et ailleurs, en dehors de l'Église. Bon. Il est mal aimé parce que, ben, il suffit de voir, il est assez déserté, hein. On a des célébrations qui sont faites, il n'y a pas grand monde. Nous-mêmes, très souvent, on est bien embêtés pour se confesser. On ne sait pas trop. Enfin, le nombre de gens, moi, comme confesseur, bah, je ne sais pas très bien quoi dire. Ou on dit toujours la même chose, ou etc. Alors, on est toujours très, très, très démunis, et c'est assez rare de le vivre justement, de le vivre d'une manière facile et d'une manière en plénitude. Alors on va essayer un peu d'approfondir pour pouvoir profiter de cette grâce et pouvoir rentrer un peu plus dans ce moyen de salut, dans ce moyen de vie en plénitude que nous donne le Seigneur à travers ce sacrement de confession. Pourquoi, j'allais dire, c'est un sacrement mal aimé, un sacrement difficile à vivre? Pour deux raisons. La première, elle est historique. La deuxième, elle est plus d'ordre théologique ou théologal, je ne sais pas comment dire. Bien. Pour une raison historique, il faut quand même voir à peu près d'où on est, parce que sur le plan de la morale, de la moralité, de la manière dont le sujet prend sa vie en main et en est responsable, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'Église d'avoir des difficultés, mais plutôt l'Église, ici, dans notre pays, en Occident, est confrontée à une crise de la moralité que l'Église a affrontée et a passée. Je vous rappelle en deux points, trois phrases, un peu cette difficulté. Nous avons vécu pendant la Troisième République, je m'excuse, mais c'est pas si loin, même si bon nombre d'entre nous sont nés après la Troisième République, c'est pas grave, mais nous avons été tous très très marqués, notre époque est très marquée par cette époque d'une moralité très stricte dans un sens, d'une moralité très conventionnelle, d'une moralité très qu'ancienne, marquée par l'impératif catégorique, ma conscience me dit il faut, je dois, etc. Et finalement, nous avons vécu et nous risquons de vivre la confession uniquement par rapport à des catalogues, par rapport à ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Et c'est un peu l'idée que l'on a de l'Église très souvent, hein, en disant ah ben, l'Église, ce qu'elle a apporté, c'est simplement le péché. Ou alors on nous demande nombre de fois, le nombre de gens aussi qu'on peut rencontrer qui vous disent, même peut-être nous, des fois, au début de la messe ou n'importe quelle célébration, on nous casse les pieds, il faut toujours se reconnaître pécheur, etc., comme s'il n'y avait que ça, c'est la culpabilité, parce qu'en même temps, notre monde en crise, et nous sommes tous bien souvent pris, et ça c'est propre à l'homme d'ailleurs, hein, homme et femme, c'est propre dans un sentiment de culpabilité, hein, un sentiment de bon, c'est pas très bien, on n'est pas très sûr de soi, est-ce qu'on fait bien, est-ce que ceci et tout. Et aujourd'hui, on s'est ouvert aussi à un peu plus, si vous voulez, la psychologie des profondeurs, regarder notre vie, le sens, voir les charges affectives qu'il y a sur notre vie, etc. Et on découvre effectivement, la plupart du temps, ben, est-ce que on a un grand, grand manque de confiance en soi, de confiance dans la vie, parce que ça aussi, c'est quelque chose de notre époque actuelle, pas de la Troisième République, mais notre époque actuelle, ce manque d'ouverture à la vie, de confiance, ce manque aussi de perception de la personne que nous sommes, de ce que nous sommes, hein, comme sujet. Alors, je vous disais, bon, dans le temps, ce qu'on faisait avant le concile, si vous voulez, on se confessait par rapport à des listes, etc., par rapport à j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, etc. Bon. Avec mai 68, etc., avec mai 68 qui n'est qu'un symptôme, si vous voulez, dans l'après-guerre, etc., ou avec ce désir, un désir de vie, quelque chose de faire claquer un carcan, hein, un carcan dans lequel on est, parce que de rester dans quelque chose d'extérieur et le désir d'aller vers quelque chose d'intérieur. Hein. Mais vous sentez bien que c'est difficile parce qu'on a du mal à, on se sent aussi très souvent ballotté par des forces de notre vie, etc. On s'aperçoit qu'on n'a pas forcément aussi, on voudrait faire le bien, on voudrait aimer, mais on n'y arrive pas, alors on sait pas très bien. C'est aussi ce mystère un peu de cette vie un peu éclatée dans laquelle on se trouve, hein, moi, je dis toujours, les curés nous disent et notre conscience nous dit, aimez-vous les uns les autres, etc. Et puis, oui, mais on a essayé, mais dans nos situations concrètes, ça marche pas très bien. On sait pas très bien comment faire. Hein. Et c'est, je crois aussi, une des grandes raisons aussi de la désaffection, hein, de nos églises et du sacrement, parce que on nous donne pas les moyens. Et justement, ce que nous allons voir, c'est que Jésus vient pour libérer cette vie en nous par sa miséricorde, pour nous faire sortir de ces impasses de nos cœurs et pour nous donner un moyen très concret, des moyens très concrets pour avancer et pour découvrir et pour vivre pleinement, hein, d'une manière libre, consciente et aimante. Parce que c'est ça le but, hein, de Dieu et le but de ce sacrement qui nous est donné. Donc, une raison historique, hein, qui est lié à une société, à notre société dans laquelle nous sommes, où on a du mal à percevoir justement comment vivre notre responsabilité, comment vivre notre vie, etc. Il y a une deuxième raison que j'appellerais plus théologique ou théologale, c'est que se confesser, c'est toujours difficile et ça restera toujours difficile. Hein? Parce que ça demande en bref de mourir à nous-mêmes pour rentrer dans la vérité. Ça demande le courage de la vérité, de regarder notre vie. Ça demande ce courage de dire, hein, les choses et pour lesquelles il faut renoncer à nos ambiguïtés, à nos penchants, renoncer à notre convoitise, si vous voulez, hein, renoncer à nos désirs qui voudraient s'approprier les choses, chercher des sécurités, etc., pour rentrer, justement, avancer vers l'inconnu. Le sacrement, on pourrait reprendre tous les éléments du sacrement de la confession qui nous font vivre justement la vie de Jésus et qui nous font vivre la mort et la résurrection de Jésus. Hein? Vivre le sacrement de la confession, c'est accepter de passer par la mort, reconnaître notre mort, hein? Ne pas être passif, vous allez dire, dans cette mort, mais offrir, accepter de rentrer dans cette mort, la voir pour ressusciter. Mais là, il y a un acte d'abandon qui, bien souvent, qui restera toujours difficile. Jésus, devant sa passion, ressent un effroi. Il y a une agonie dans le sens, il y a un combat pour avancer vers la vérité. Et nous ne pourrons jamais enlever cet aspect de combat pour la vérité, pour devenir libre. Bien. La confession, c'est un sacrement de guérison. Et c'est un sacrement de guérison pour le chrétien. Et là, il faudrait partir du point de départ, ce qu'on oublie beaucoup. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Parce que si on oublie, la confession, c'est pas simplement une ordonnance conformée à une morale. Hein, très souvent, dans le temps, où les gens envoient leurs enfants dans une école catholique, ou parce qu'au moins là, ça se tient à peu près, ou au catéchisme, de moins en moins. Mais enfin, dans le temps, ça se faisait un peu comme ça, parce qu'au moins, il aura un petit peu de morale. Hein? Alors, maintenant, on a même perdu ce sens, mais bon, hein, il aura un petit peu de morale. Et on reste souvent à ce niveau-là. Or, il faut revenir, qu'est-ce qu'un chrétien ? Et qu'est-ce que va être la vie du chrétien. Je reprendrai en deux, trois mots qui vont résumer un peu la pensée de Jean-Paul II et comment Jean-Paul II nous le dit. Vous vous souvenez que le premier mot de Jean-Paul II, c'est « ne crains pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Ouvrez les portes au Christ. Ouvrez les portes à la vie. Ouvrez les portes à la vie qui sourd en vous, hein, du verbe sourdre, hein, qui jaillit en vous et qui ne demande qu'à jaillir. Nous avons été faits pour la plénitude de la vie. Mais, et Jean-Paul II continue ensuite quand il va expliquer toute sa théologie, la théologie du corps notamment, où il va nous enseigner cela, il va dire ne soyez toujours des sujets, des gens qui agissent d'une manière libre, consciente et aimante. Et ne vous laissez jamais traiter comme des objets. Que ce soit dans la vie politique et le retentissement du « ne crains pas, n'ayez pas peur » et la force que Jean-Paul II, avec cette annonce, a permis de développer, on le sait, au plan politique, au plan des nations, notamment avec la chute du communisme, mais aussi au niveau du point de vue des personnes que nous sommes. Dans la dignité de l'homme et de la femme, hein, dans la dignité de ce que nous sommes des êtres faits pour la communion. Et ne vous laissez pas prendre, hein. Et alors il dit, ben, il y a toujours un témoin, comme un symptôme de ce que on n'agit pas comme sujet, mais on s'est laissé quelque part traiter comme objet, hein, dans la honte. Et là, il parle spécifiquement au niveau de la sexualité, mais ça peut développer, ça peut dépasser aussi, ou dans la peur. Et il dit que quand on est mu par la honte, envahi par la honte, par la peur, la crainte, ou quand on vit par rapport aux réactions, par rapport aux autres, voyez, uniquement, eh bien, c'est que quelque part, on a démissionné du fait de pouvoir dire « je » et de prendre notre vie en main. Et que on se laisse traiter comme un objet quelque part. Alors ça peut être par nos passions, ça peut être par les événements de la vie, ça peut être par le péché des autres ou les difficultés, les souffrances que les autres nous infligent, ou par la mode, par énormément de choses, hein, mais de se laisser traiter comme objet. Et Jean-Paul II vient nous rappeler ce message de Jésus, hein, qui va être quoi, hein, qui va être le royaume des cieux est au milieu de vous. Bien. Alors, et ici, j'ai une distraction. Je voulais encore dire une chose sur Jean-Paul II. Bien, c'est pas grave, ça reviendra. Il reprend cette prédication de Jésus. Et il nous faut bien voir, pour être chrétien, cette prédication de Jésus, d'où elle vient et comment elle est. Au départ de la prédication de Jésus, il y a la prédication de Jean-Baptiste. Et la prédication de Jean-Baptiste, vous vous souvenez ce que fait Jean-Baptiste, hein? Jean-Baptiste, il, dit saint Jean, il prêche, il baptise en Transjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, dans le désert. C'est-à-dire qu'à tous les gens qui sont là en Israël, en Juda ou en Galilée, etc., il leur dit, attendez, c'est pas simplement dans vos cultes, comme tous les prophètes, hein, c'est le dernier des prophètes, c'est comme tous les prophètes, c'est pas dans les actes extérieurs, dans les choses que vous faites, etc., mais il va falloir que vous ressortiez de vos sécurités, de tout ce que vous pensez, de vos valeurs, etc. J'en parlerai tout à l'heure, hein, ici, pour aller dans le désert et refaire cette expérience, hein, de Dieu qui nous guide dans le désert et qui nous fait rentrer de nouveau dans sa grâce. qui nous fait rentrer de nouveau dans ce jaillissement, hein, de l'amour de Dieu, de cette miséricorde de Dieu, de la force avec laquelle dans l'Ancien Testament s'est manifestée la présence de Dieu, qui dans toute la Bible, je vous rappelle, nous rappelle « n'aie pas peur », hein, 365 fois, hein, ou « ne crains pas », enfin il y a deux, trois mots pour le dire, mais c'est toujours la même idée. Eh bien, pour nous, et je vais t'accompagner, je vais te faire sortir de tous tes esclavages, et je vais te permettre d'être, c'est tout le sens de la Pâque, toi qui étais dans l'oppression, en train de vivre, de subir ta vie, hein, que ce soit au niveau intérieur toi-même ou par les forces qui se déploient autour de toi, etc., eh bien, je vais faire de toi quelqu'un qui peut prendre ta vie en main et vivre d'une manière libre. Dans chaque famille juive, hein, au céder de Pâques, de Pessah, hein, eh bien, on mange avec les coudes sur la table. Hein, ce qui ne fait pas bien, hein, faut pas le faire. Mais ce jour-là, on peut le faire parce que nous sommes libres. Hein, on est comme des maîtres, on est comme des patrons, et on peut parce que le Seigneur nous rend notre force. Il nous rend ce jaillissement de notre vie. Oui, alors mon idée tout à l'heure sur Jean-Paul II que je voulais finir, hein, c'est ce que va nous enseigner Jean-Paul II. Eh bien, nous devons vivre. Eh bien, nous sommes appelés. Et si vous verrez, c'est tiré de l'enseignement de Jésus. Nous devons vivre dans ce jaillissement de la grâce de Dieu. Vous avez été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jésus vient restaurer cette image et cette ressemblance de Dieu. Et comment elle se manifeste, cette image et cette ressemblance de Dieu ? Je ne vais pas tout dire, je vais dire simplement un des trois points, mais nous sommes des êtres faits pour la communion, pour l'amour. C'est quelque chose qui gît au fond de nous, pour lequel nous sommes faits, qui va donner ce sens de notre vie. Mais, voilà, eh bien, de fait, nous faisons l'expérience dans notre vie, eh bien que notre vie, eh bien, nous nous laissons traiter comme des objets, objets de notre convoitise, objets de la convoitise des autres, de toutes les forces. Et la Bible passe son temps à nous décrire, c'est ce qui nous scandalise, parce que là, nous on dirait, on voudrait faire du moralisme avec la Bible, que ce soit des beaux petits contes qui nous expliquent, etc. Non, qui vient nous expliquer notre cœur, Caïn et Abel, l'incapacité de vivre comme frères et sœurs dans une fraternité, dans la communion. Déjà avec Adam et Ève, bon, mais ici, rien que la fraternité, cette fraternité impossible, et tout le livre de la Genèse jusqu'à la fin, ça, hein, on a les frères, les fils de Jacob, ensuite, il y a toutes les histoires de famille qui sont bien compliquées dans la Genèse, jusqu'à les fils de Jacob, ils ne pouvaient plus parler entre eux. Ils ne pouvaient plus vivre en paix, ils ne pouvaient plus parler. Hein, entre eux. Et le chemin dans lequel Dieu mène pour petit à petit, hein, à travers l'œuvre de Joseph, de Judas, hein, pour naître à une vraie vie fraternelle. Bien. Eh bien, Jésus et Jean-Paul II nous rappellent justement cet enseignement de Jésus. Nous sommes faits, Jésus vient nous remettre avec le discours sur la montagne, je dirais trois mots après, il vient nous remettre dans cette grâce que Dieu nous fait, cette vie qu'il nous donne en plénitude. Mais notre cœur reste, comme dit Jean-Paul II, cette très belle expression, ce champ de bataille entre cet être profond pour lequel nous sommes faits, que Jésus, dans sa grâce, vient activer quand il nous dit que nous sommes fils en lui, hein, il vient nous faire rentrer dans sa prière, nous sommes fils, c'est ça être chrétien, hein. Eh bien, il va petit à petit, notre cœur est ce champ de bataille pour nous arracher à la convoitise, aux forces de ce monde, si vous voulez, et pour vivre pleinement de cette communion, de cet amour de miséricorde, de Dieu qui aime celui qui n'est rien, et qui le fait exister. Voilà un peu. Bien. Alors j'étais avec Jean-Baptiste. Eh bien Jean-Baptiste, il fait sortir, vous allez revivre, il faut revenir à la source, il faut revivre vraiment, vous ne pouvez pas. Hein. Alors il va appeler les gens, il va les baptiser, Et ce geste du baptême, il est important, c'est pas simplement une petite purification comme ça. C'était un geste, à l'époque, toujours aujourd'hui dans le judaïsme, quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être baptisé, avoir un bain rituel complet, et puis pour les hommes, la circoncision. Hein, mais y a les deux. Et ce geste, nous on se souvient, la circoncision, point, c'est la marque dans la chair, mais il y a d'abord ce geste, se baigner pleinement, ce bain rituel. Mais Jean-Baptiste y ajoute quelque chose. Il y ajoute la confession des péchés. Il y ajoute, il demande aux gens de faire des œuvres de pénitence. Il vient rappeler chacun au profond de son cœur, souviens-toi pourquoi tu es fait. Tu es fait pour la grâce de Dieu, tu es fait pour l'amour de Dieu. Et il faut le concrétiser aussi, il faut dénoncer pour apprendre à vivre des œuvres de Dieu. Et c'est des œuvres de bien. Et chez Jean-Baptiste, ça reste tout simple. Fais bien ton devoir d'État. Que le soldat ne profite pas de sa force pour molester les autres. Que le marchand ne profite pas de sa force de tenir les biens qu'il va vendre pour imposer des prix d'une manière arbitraire et pour s'enrichir sur ce commerce qu'il fait, etc. Ne va pas profiter de ta position de force pour écraser les autres. Ça revient à peu près à ça. Et Jésus reprend la même prédication. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Vous voyez, on n'est pas chrétien si on n'a pas ce sens, si on ne rentre pas dans cette grâce de cette rencontre avec Jésus qui vient libérer en nous quelque chose, qui vient libérer sa grâce, ce désir de vie, ce désir de... Vous serez saint comme le Père est saint. Hein, vous serez parfait comme le Père est parfait. Et Jésus va donner son interprétation de la loi. Et il va l'expliquer d'une manière, dans saint Matthieu, vous avez ça, c'est extraordinaire. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et ça veut dire quoi? Il prend les commandements, il en prend 3 sur les 10, hein, et il prend, il prend le meurtre, l'adultère, et jurer sur le nom de Dieu faussement, etc. Tu ne jureras pas faussement sur le nom de Dieu, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu, etc. Et tu accompliras tes serments. Hein. Il prend ces 3 domaines qui vont reprendre finalement toute la vie humaine. Hein, si vous voulez, bon. Et il va dire, il va les réinterpréter dans leur plénitude. Parce que nous, on a toujours, vous voyez, ils étaient aussi au temps de Jésus, c'est la même chose, les pharisiens, dans un moralisme très fort. Et alors, bon, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait ceci, j'ai pas fait ceci. Hein? Et puis, et leur identité, alors je suis sauvé, c'est bien, etc. Et Jésus vient dire, mais non, regardez les 10 commandements. Vous vous souvenez à peu près des 10 commandements? Je ne vais pas vous interroger pour le savoir, mais c'est pas mal, c'est assez intelligent. Hein? C'est des paroles, les 10 commandements, c'est pas des trucs pour nous embêter. Hein? C'est des paroles qui ont été données pour nous libérer, hein, par rapport à nos esclavages, pour nous permettre de vivre ensemble, en nous respectant. Mais, on était tombé un petit peu, bon, tu ne tueras pas, bon, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. Alors moi, les gens qui viennent se confesser, en général, ils disent, mais je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. Je suis dans une maison de retraite, une vieille dame qui me dit, mais, moi, je n'ai plus besoin de me confesser, aujourd'hui, je ne fais plus de péché, moi. Hein? Alors je dis, oui, les péchés de 20 ans, vous ne les faites peut-être plus. Vous n'êtes peut-être pas adultère parce que votre mari, il est mort il y a déjà 30 ans. Hein? Donc, bon, ça d'accord. Mais vous faites peut-être des péchés de 90 ans qui ne sont pas les mêmes. Ah oui, c'est quoi les péchés de 90 ans? Bon, il n'y a personne de 90 ans, donc je ne vais pas les dire aujourd'hui. Hein? Mais je vais dire, c'est pas ça. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas ça. Hein? Alors, Jésus vient dire, vous voyez, les 10 commandements, ça concerne effectivement des actes. Mais le dernier, ou les 2 derniers dans la tradition catholique, mais enfin le dernier, hein, tu ne convoiteras pas. Et au plan des relations personnelles et spécifiquement de la sexualité, la femme de ton prochain, hein, c'est adressé aux hommes, mais enfin c'est tout à fait convertible, hein, et tu ne convoiteras pas les biens. Et est-ce que quelqu'un a fait du droit parmi nous ici? En droit, on peut légiférer sur des actes, mais on ne peut pas émettre une loi sur des pensées, sur le fond du cœur. Et le fond du cœur, c'est quoi? Tu ne convoiteras pas, tu ne réduiras pas les autres à des objets pour ton propre désir. Dans la sexualité, tu ne réduiras pas ton corps ou tu ne réduiras pas l'autre à titre d'objet. Dans les biens, tu vas pas utiliser les biens comme ça en épuisant les choses juste pour toi et puis en te moquant complètement des autres, en te moquant complètement de la planète, en te moquant, bon, hein. Dans le domaine aussi de avec le cet aspect de la domination, l'autorité, hein, que chacun d'entre nous, on a toujours autorité sur quelqu'un, sur quelque chose, etc. Eh bien, comment je vais l'exercer? Hein, simplement pour trouver pour imposer à l'autre et puis pour pouvoir exister simplement, ou l'autorité, c'est quelque chose qui m'est donné comme un service pour faire grandir. C'est tout à fait autre chose. Hein. Regardez dans les bureaux, dans les familles, hein, vous connaissez tous l'histoire, hein, le type qui se fait rouspéter par son patron, alors le mari qui revient qui rouspète sur sa femme qui rouspète sur les gosses qui rouspètent sur le chien et qui rouspètent sur le chien qui aboie sur la souris et la souris qui mange le... Enfin, je sais plus ce qu'elle fait, mais ça fait rien. Le chat, la souris, et puis après, bon. Mais on a toujours cette... Non, l'autorité, c'est un service. Et alors, Jésus va dire, ben, attention, hein, la loi, c'est pas seulement ne pas faire l'acte, c'est aller jusqu'à ton cœur. Et c'est pas dans un souci de pinaillage, de mettre... Non, c'est dans cette exigence, dans cette intelligence, il vient le mettre dans la lumière. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il nous appelle à vivre ses paroles, hein, pour que la vie de Dieu circule en nous. La loi, comme Jésus l'interprète, c'est pour que notre cœur, et ça finit justement, soyez saints comme le Père est saint. Vous voyez, c'est pour récupérer cette vie plénière que Jésus nous donne. Alors Jésus ne se contente pas de l'annoncer. Effectivement, vous voyez, il vient dire, alors oui, je finis sur le sermon sur la montagne, pour bien que vous compreniez, hein, cette interprétation de la loi de Jésus, de la loi par Jésus, elle vient bousculer la manière dont Moïse l'a donnée. Elle vient la mettre dans... Parce que qu'est-ce qu'il faisait Moïse? Si vous vous souvenez, quand il a donné la loi, comment il a fait? Il était... ils étaient dans le désert, hein, donc il leur donne une loi. Avec une loi, ils deviennent un peuple, ils deviennent quelqu'un. Et pourquoi il donne cette loi? Parce que tout le monde venait à lui pour, avec ses récriminations. Ah ben mon voisin, il a pris 2 mètres de mon terrain, etc., etc. Et il n'en pouvait plus, on nous raconte au chapitre 18 de l'Exode. Alors son beau-père qui arrive pour le visiter lui dit, mais attends, tu vas mourir à ce train-là. Jour et nuit, ça n'a pas de fin, etc., pour régler les petits litiges. Hein? Et donc il a mis en place, et on dit justement, il y a une effusion d'Esprit Saint pour déléguer à 70 autres, eh bien, un peu ses cas à légiférer, lui gardant les choses difficiles. Et puis il donne la loi, les 10 paroles, hein, qui vont créer ce peuple de Dieu. Mais ce que vient faire Jésus, il vient nous dire, et ça c'est Jean-Paul II qui l'explique très bien, il nous dit, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il vient combiner avec notre cœur mauvais. Par exemple, comme dit Jésus, par rapport au mariage, hein, par rapport au divorce. Hein. Moïse a permis un acte de divorce à cause de la dureté de votre cœur. Et Jésus nous dit, mais à l'origine, dans la source du cœur, dans la ressemblance avec Dieu, dans la dignité de ce pourquoi tu es fait, il n'en était pas ainsi. Et voilà cette grande différence. L'interprétation de Moïse et des pharisiens à l'époque de Jésus, hein, et de tout le judaïsme dans sa progression, a été, on va mettre une loi qui va nous libérer, mais finalement en combinant avec notre cœur mauvais. En d'autres termes, en vivant à partir de notre blessure. Et puis en colmatant comme on peut, avec beaucoup de prudence et beaucoup d'intelligence, très bien. Mais Jésus vient dire tout à fait autre chose. Dans cette plénitude, dans cet accomplissement de la loi allant jusqu'au cœur. Ne pars pas à partir de tes blessures. Ne pars pas à partir de la convoitise de ton cœur en étant de colmater les brèches plus ou moins. Mais retourne à l'origine, dans le jaillissement de l'amour du Père. C'est ça. Accepter de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Et de là, vous allez tirer tout le reste de l'évangile. Quand dit Jésus, aime ton ennemi, traduit par saint Paul, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueur du mal par le bien. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est-à-dire, ne vis pas à partir de ta blessure. Bien sûr, il y a tout un processus à faire, prendre conscience de sa blessure, savoir ce qu'on perd, etc. Parce que sinon, on ne pourra jamais le vivre. Là, il y a tout un chemin à faire. C'est vrai. Mais vis à partir de la source, comme Dieu fait. Dieu sait bien que nous sommes pécheurs, mais il n'agit pas avec nous en fonction de nos péchés, mais en fonction de sa miséricorde. Peut-être que, d'une manière pédagogique, il faut que Dieu mette des limites, etc. Donc, au Sinaï encore, il dit ça. Et alors, effectivement, on porte le poids des péchés jusqu'à la deuxième, troisième, quatrième génération. Dans le sens, il faut colmater un peu. Mais vivez dans ce jaillissement de l'alliance de Dieu, en voyant chacun dans sa dignité, en ne rendant pas le mal pour le mal. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est captif. On n'est pas libre, on est captif de ce mal, et on est l'objet de ce mal. Mais soyez libre. Alors, Jésus ne l'a pas fait que dans les paroles. Il l'a fait d'une manière très concrète, en allant rencontrer les pécheurs, en guérissant les malades, comme signe du pardon du péché. Parce que c'est ça, vous vous souvenez, cet épisode de Jésus dans la maison, de Pierre, il est à Capharnaüm et tout le monde se presse, et là dans la cour, sous le patio, etc. Et puis, il y a quatre hommes qui ramènent un paralytique, il n'y a pas de place pour monter, alors ils montent sur le toit plat, là, et puis le seul patio, il y a un toit un peu plus, avec des palmes, etc. Alors ils écartent les palmes, etc., pour trouver et tomber, faire descendre le malade devant. Et Jésus, devant cette foi, devant cette force, devant cette initiative, devant ce désir de rencontre, il n'y tient plus, il dit à l'homme, va, tes péchés sont pardonnés. Et les autres disent, parole, et c'est facile à dire. Et puis en plus, les plus instruits disent, enfin, il dit n'importe quoi, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés, ce qui est vrai, ce qui est vrai quelque part. Les poids, ça c'est quelque chose que l'humanité a toujours eu. Aujourd'hui, on est très attiré par notamment l'Orient, etc. Ben, l'Orient a bien ce sens, avec le karma, par exemple, ou même finalement la psychanalyse, quelque part, a aussi ce sens du poids des actes, du poids. Tout ce que nous faisons est enregistré en nous. Mais justement, Jésus a ce pouvoir. Dieu a ce pouvoir de venir nous toucher, nous délivrer de cette convoitise pour nous faire vivre dans ce jaillissement de la grâce, de l'amour du Père. Parce que vous êtes des fils. Et c'est quoi des fils? C'est pas simplement, c'est aussi l'aspect de la tendresse. C'est très fort dans Osée, les fils. Il parle au peuple qui est pécheur, qui a fait n'importe quoi, qui a renié Dieu, etc. Et il dit, mais chaque fois que j'entends, au chapitre 11 du livre d'Osée, chaque fois que j'entends ton nom, eh bien, c'est mes entrailles qui sont bouleversées. Alors effectivement, ça a ce sens d'affection très fort. Mais le fils, c'est avant tout, s'il nous déclare fils, c'est pas simplement, c'est aussi pour cette tendresse, mais c'est aussi parce que le fils, c'est celui qui a l'héritage. Celui qui dispose, celui qui est chez lui dans la maison du Père. C'est celui qui dispose, qui a une libre disposition des biens. Et justement, si nous sommes appelés fils de Dieu, c'est que nous avons une libre disposition de l'amour de Dieu, que nous sommes appelés. Et vous vous souvenez, une chose qui est au cœur du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À nous, avec notre mentalité dépendante de la Troisième République, excusez-moi, hein, ou de la morale kantienne, on se dit « Ah, mais c'est un calcul, alors comme moi, suivant les degrés », c'est pas du tout ça que ça veut dire. Jésus interprète ça avec la parabole du débiteur impitoyable. Vous vous souvenez de cette histoire, hein? Tu me dois 6 millions d'euros. Pas mal. « Oh non, je peux pas payer, remets-moi plus tard. » Bon, ben, le maître se laisse toucher. C'est bon, il lui remet sa dette. Il rencontre un voisin qui lui doit 100 euros. « Rends-moi mes 100 euros, etc. » Et puis, il lui serre le cou jusqu'à ce qu'il lui rende. Hein? Et Jésus, avec cette parabole, dit « À toi, il a été fait miséricorde. Laisse la miséricorde couler à travers toi. Fais des œuvres de miséricorde. Ne va pas faire obstacle à cette grâce de Dieu dont tu es le bénéficiaire, mais pour qu'elle coule et que toi-même tu deviennes source pour les autres. C'est ça, être chrétien. Et Jésus nous enseignera par sa vie dans n'importe quelle circonstance. Parce que nous on dit, oui, si ça va bien, si même bien, je veux bien l'aimer. Mais non, justement, Jésus dit, et si, t'aimes pas, encore plus. Et Jésus le montrera dans sa vie, dans les circonstances les plus difficiles. Quand on va le prendre, hein, quand on va vouloir le mettre prisonnier, quand on va vouloir le mettre sur la croix, etc. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Vous voyez cette force, il ne va pas, et il rentre librement, volontairement, il est présent, et il peut offrir vraiment sa vie. Et cette offrande de sa vie, c'est ce qui justement est ce phare et cet acte qui nous obtient, hein, ce triomphe de la vie à travers la mort et la résurrection, hein, parce que c'est pas simplement quelque chose de symbolique qui s'accomplit, c'est pas simplement, c'est vraiment cette vie qui nous est donnée. Tu peux vivre à ce degré de l'amour de Dieu. Vous voyez, alors je disais, Jésus le montre, hein, il accueille et il vivifie les pécheurs. Alors vous pouvez regarder toutes les rencontres, Zachée, Marie-Madeleine, la femme adultère, la Samaritaine, etc. Hein, où on voit, et il va s'asseoir. C'est pas simplement il invite les pécheurs chez lui, mais c'est lui qui va s'asseoir à la table des pécheurs. Il vient nous chercher. Et dans notre vie chrétienne, c'est ça, ouvrons la porte au Christ. Je me souviens de quelqu'un comme ça que j'accompagnais et qui était bien mal pris avec sa vie, c'était assez compliqué, etc. Hein, et qui, vivant un peu sa vie comme une victime, si vous voulez, hein, quelqu'un ne réussissant pas à se marier, etc. Enfin, avec des tas de difficultés comme ça. Et puis, vivant un passé qui l'opprimait, etc. Et puis, moi, j'accompagnais spirituellement, etc. Mais je voyais bien que tout ce que je pouvais dire provoquait rien, sinon de l'agacement. C'est un peu embêtant. Bon, hein, pour aider, on sait plus très bien comment aider. Jusqu'au jour où la personne, un jour, devant le Saint-Sacrement, a dit, s'est sentie appelée à entrouvrir la porte au Christ. Et depuis ce jour-là, cette personne n'a pas vraiment changé de condition, mais ne vit plus rien comme victime, mais vit tout comme sujet. Ça transforme toute la réalité. Vous voyez, nous attendons de l'extérieur que les autres nous sauvent, que les autres nous aident à qu'ils soient bien, comme ça nous on pourra au moins avoir le sentiment d'exister. Mais non, Jésus vient nous visiter, il nous fait confiance, il nous fait miséricorde, il nous rend notre vie, il nous ramène à ce jaillissement dans les mains du Père tel que tu as été à ta création. Il n'y a aucune blessure humaine qui soit assez solide pour barrer définitivement la porte à la grâce de Dieu. Et Dieu nous avait... Alors, vous voyez, il s'assied, et on voit tous les pécheurs, là, les plus réduits, les plus exclus, etc., que Jésus vient relever et donner la vie. Et tous ces gens-là, c'est nous. Et dans le sacrement de confession, parce que je vais quand même finir par y arriver, on est dedans, dans le sacrement de confession, c'est effectivement Jésus qui vient s'ouvrir, qui vient à la table du pécheur, qui vient nous rencontrer. C'est une rencontre avec le Christ, le sacrement de confession. Avec lui. Bien. Alors, Jésus aussi a parlé, et ça c'est un point que je voulais aborder avec vous, il a aussi affronté, et c'est très douloureux dans l'évangile, il a affronté les pharisiens. Il a affronté les pharisiens. Et c'est quelque chose qui est très... Il a démasqué le péché des pharisiens. Quel est le drame des pharisiens ? C'est qu'ils sont enfermés, comme nous par rapport à la confession, dans notre situation historique. Ils sont enfermés dans un moralisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Je le dis dans une phrase compliquée, mais qui vous permettra de réfléchir. On tend souvent à réduire la considération que l'on a de soi. Est-ce que je suis bien? Le bien que je porte, la considération, au fait d'avoir ou de ne pas avoir satisfait à certaines lois, à certains comportements. Et l'on se définit par rapport à cela. Or, dans la tradition chrétienne, c'est justement là que se profile la structure de péché. Je dis ça tout simple pour vous aider à vous confesser. Je reprends. On tend souvent à réduire la considération que l'on a de soi au fait d'avoir ou pas satisfait à certaines lois, et l'on se définit par rapport à cela. Or, dans la tradition chrétienne, c'est là que se profile la structure du péché, le fait de s'identifier à ce qui sera une idole. C'est-à-dire à une forme, à quelque chose qu'on peut dominer, comprendre totalement, à quelque chose que l'on construit pour se sécuriser. Voyez. Alors, chez les pharisiens, c'est la loi objective, la loi extérieure, qu'on a déclinée dans tous les sens, avec une casuistique extraordinaire, parce qu'il prend toute la vie, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, c'est extraordinaire d'aller dans le quotidien, etc. Mais le fait, c'est, on fait une idole, une projection, la valeur, le comportement, le désir, l'image de soi que l'on construit, mais qu'on va pouvoir dominer, comprendre totalement. Et c'est là où se situe la grande imposture de la vie morale, réduite à une recherche de certitude dans ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Et combien de fois on se situe dans cette attitude, quand on regarde un peu, alors on est, est-ce que finalement j'ai une bonne image de moi par rapport à nos grandes valeurs? Or, dans tout ce que je viens de vous expliquer et le fait d'être chrétien, ce qui nous définit, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas des comportements, ce n'est pas une loi extérieure. Ce qui nous définit, nous dit Jésus, c'est le mystère de Dieu lui-même. Tu as été fait à son image et à sa ressemblance. Tu as été fait pour aimer infiniment. Voyez ? Alors, vous voyez la différence de perspective quand on va se confesser. Intéressant. Est-ce qu'on renforce un peu son idole dans un moralisme étroit ? Mais justement, c'est ça le problème. Et Jésus l'explique bien, vous voyez, entre le publicain et le pharisien qui arrive, il est extraordinaire cet homme, on se moque dans nos prédications de ce type-là en disant il est extérieur, etc. Attendez, il est extraordinaire, il a été à Medjugorje, il jeûne deux fois par semaine, il donne la dîme, et puis il dit, et ça lui a coûté, il a fait des efforts sur lui, Mais, et puis, et Jésus dit, bon, ben, il est justifié, c'est bon, il a sa justification, là, Dieu peut rien pour lui. Et le publicain, là, le type qui vaut rien, parce qu'il vaut vraiment rien, c'est pas que c'est. Hein, et il a vraiment fait des bêtises. Hein, eh bien, et il dit, Seigneur, prends pitié de moi. Mais voyez, il y en a un qui a mis tout son cœur, qui va chercher dans cette relation avec Dieu, même s'il n'est pas très sûr, etc. Alors que l'autre, il reste dans ses certitudes. Et ce mystère de Dieu, et là, vous voudrez reprendre toute la Bible, Dieu nous invite, Jésus nous appelle à marcher derrière lui. Dieu nous invite avec Abraham, sors de tout ce qui fait tes cadres, de cette idolâtrie, de ce monde idolâtre dans lequel tu es. Sors, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui lui permettent de se comprendre totalement pour aller vers un pays où je t'enverrai, que je te montrerai, pardon. Hein? Va, et le petit mot est très très fort, lech lecha, va pour toi-même, c'est-à-dire va pour ton bonheur. Hein? C'est pas faire des trucs pour Dieu, c'est pas faire des. Non, va au bout pour découvrir, pour affronter, pour avancer dans le monde. Et moi, je te donnerai. Vous savez bien, hein, on m'a encore rapporté ces derniers temps des gens qui. Ça faisait 7 ans qu'ils vivaient ensemble. Hein, ils se sont mariés. 4 mois après, ils étaient séparés. C'est des choses qui arrivent souvent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont monté des. Ce qu'on vit, c'est extraordinaire, c'est notre sécurité. Il faut qu'on répète ça. Hein? Et alors avec la peur, avec le fait du mariage, ça fige un peu les choses. Et puis, plaf, ça a fait éclater. Parce que c'est des gens qui ne rentraient pas dans cette aventure de la vie. Il fallait répéter les choses sûres, les valeurs sûres qu'on avait. Alors que, ben, on sait bien, quand on avance dans la vie, on va découvrir des choses. Et puis, il va falloir faire face. Et puis, il va falloir avancer avec des choses nouvelles qu'on n'avait pas prévues. Hein? Et il faut absolument avancer. Et voilà, c'est dans ce jaillissement de la vie où Dieu nous attend, où il nous fait porteur. Et notre confession, notre acte de confession, il va venir dans cette vie d'enfant de Dieu. Voyez? Alors, la première chose, bien sûr, hein, c'est le baptême qui remet les péchés. Ce sens, le baptême, hein, qui, je crois, en un seul baptême pour la rémission des péchés, le grand moment. Et puis dans la vie de l'Église, alors on a eu ce sens. Hein. Puis, le baptême est donné une fois pour toutes, c'est la vie nouvelle. Hein. Faut laisser ce jaillissement. Et puis petit à petit, alors Jésus avait dit, hein, Jésus, donc je vous disais tout à l'heure, il prêche. Jean-Baptiste, la prédication de Jésus, Jésus le confirme dans des gestes en accueillant les pécheurs, en démasquant le péché aussi là où il est, chez les pharisiens. Hein? Et puis, ensuite, Jésus offre sa vie, hein? Il accomplit ce fait, il nous le montre, il nous le donne, il nous fait communier à son cœur. Hein? Il nous fait passer par cette mort et cette résurrection à laquelle, parce qu'il le vit pour nous et pour notre salut. Et puis, ressuscité, il envoie ses disciples à la fin de l'évangile de Jean, hein, eh bien, allez, je vous donne pouvoir, hein, pour remettre les péchés. Alors, ça, c'est fait par le baptême. Mais dans l'Église, on a découvert aussi très vite, dans des situations dramatiques, dans des situations de persécution, hein, que ben, il y avait des gens qui se dégonflaient, hein, qui se sentaient pas appelés aux martyrs, mais qui ont renié leur foi, par exemple, etc., des choses graves. Alors, dans l'Église, dans cette méditation, dans cette écoute des paroles de Jésus, on a eu ce sens, mais il y a une seconde planche de salut. Il y a une seconde planche de salut, il y a un deuxième, il y a une possibilité. Donc, la pénitence, hein, qui était vue d'une manière, dans la première Église, hyper forte. Ben oui, vous êtes mis en dehors de la communion avec Dieu, en dehors, vous avez renié Dieu, par exemple, hein, vous êtes mis en dehors de la communion, alors vous allez rentrer, ben, dans un état de pénitent. Hein? Et puis, il y a un temps d'épreuve pour pouvoir rentrer de nouveau. Et avec la confession publique. Hein? Et puis, avec le temps aussi, hein, et notamment en passant par les Irlandais qui nous ont réévangélisés, une seconde vague d'évangélisation, qui eux-mêmes étaient influencés par des églises d'Orient, hein, eh bien, ils ont développé cet aspect plus personnel, plus confidentiel, de Hénon est moins public de la confession. Et en apportant, eh bien, cette confession, ça va rester dans ce secret, parce que ça englobe des actes de notre vie, etc., qui n'ont pas forcément à être publics, etc., et qui n'ont pas forcément à devenir, mais de rentrer dans cette rencontre avec Jésus. Et puis, du coup, ça a ouvert la porte, bien sûr, pour le pardon des péchés, des pardons de qui nous coupent radicalement de la vie de Dieu, ce qu'on appelle un péché mortel, si vous avez des choses graves, objectives, qui nous mettent en dehors de la communion avec Dieu ou avec l'Église, mais aussi de cette multitude, si vous voulez, de ces aspects véniels dans ces actes de chaque jour, si vous voulez, où on se laisse guider, où on se laisse entraîner par la convoitise, où on réagit sur nos blessures, etc., pour nous remettre sans cesse dans cet axe, pour remettre notre vie quotidienne, pour remettre notre vie toute simple, tout reprendre à ce jaillissement. Et nous sommes invités, justement, et le sacrement de la confession, il est fait venir rencontrer le Christ d'une manière objective. Et on sait très bien, il y a toute une pédagogie ici, hein, il y a toute une pédagogie qui est de dire cette rencontre à travers un ministre, à travers un ministre de l'Église, hein, pour qu'il y ait cette objectivité, parce qu'on sait bien, déjà simplement un point de vue psychologique, il faut dire les choses pour les objectiver, pour les mettre devant, pour pouvoir vivre, pour accéder à la vérité, etc. Il suffit pas de les garder, de les porter en soi, de les savoir, mais de pouvoir, c'est en disant déjà, hein, et cette vertu justement curative pour nous faire progresser, on verra ça cet après-midi aussi, pour nous faire progresser petit à petit dans notre vie intérieure, dans notre vie, dans notre appartenance, dans notre évangélisation petit à petit, pour que nous devenions, que nous vivions dans ce mystère du Christ. Vous voyez ? Parce que vous êtes, nous sommes en tant que chrétiens, fils, filles bien-aimés du Père. Et en toi, j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute ma confiance pour que tu sois bien sûr toi-même régénéré, mais que tu deviennes source pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça le projet de la vie chrétienne. Et il nous faut, pour que nous soyons attentifs, pour aller réveiller cette présence de Dieu qu'il y a au cœur de nous, que Dieu a déposé dans le cœur de chacun. Et il nous faut réactiver, si vous voulez, il nous faut réactiver cette confiance, ce trésor que Dieu, et pouvoir dénoncer tous les obstacles qui s'y mettent, si vous voulez, petit à petit, parce qu'on agit encore suivant le vieil homme, etc., ou la vieille femme, etc. Vous voyez, il y a un mystique dans la tradition juive qui dit cette parole, il est interdit d'être vieux. C'est très très beau. Il est interdit d'être vieux au sens du vieil homme, de se rabougrir, de dire non, la vie c'est pas pour moi, de limiter, de vivre à partir de ses blessures, non, d'être dans ce jaillissement de cet amour de Dieu. Voyez, et c'est pas un rêve, voyez, c'est pas simplement un non, c'est vraiment cette grâce chrétienne. Si tu n'as plus peur, si tu ouvres la porte au Christ, eh bien, le Christ vient te donner son Esprit Saint. Il vient te donner cette force. Alors, avec ce que je dis, vous pouvez dire, effectivement, on voit chacun déjà l'abîme, hein, entre cette porte que Jésus a ouverte et tout ce qui est en nous qui refuse, qui n'accepte pas la vie, hein, la base de la confession. Quand je confesse des personnes très handicapées, hein, qui n'ont pas la parole, par exemple, alors c'est un peu compliqué, hein, mais ou qui n'ont pas tout leur sens, etc. C'est très difficile de se mettre par rapport à des histoires morales, Dans le temps, on disait, bon non, oh, ils sont innocents. Ils n'ont pas besoin de, ils ont pas besoin de sacrements, ils n'ont pas besoin de les confesser. Combien y a de parents, moi, j'ai rencontré comme ça, dire, oh ben non, ma fille handicapée, là, elle est toute innocente, et puis, c'est des enfants, c'est des... Attendez, 30 secondes. Comment? Ils sont aussi appelés à accueillir ce jaillissement de la vie. Eh bien, je prends toujours pour aider un peu à voir, c'est pour l'examen de conscience, est-ce que j'ai accueilli la vie ou est-ce que je me suis fermé à la vie? Est-ce que je me suis replié sur mes blessures? On n'est pas coupable d'avoir des blessures, hein, 30 secondes, hein, n'allez pas trop loin. Mais est-ce que je me suis replié dessus? Est-ce que j'en ai fait un point final? Ou est-ce que j'ose encore ouvrir à la vie? Et dans le rituel, dans le rituel sur la confession, un petit passage qui est très intéressant et qui est très beau, c'est cette vision. Vous voyez, le péché vient mettre un obstacle à la vie, au jaillissement, à l'amour, au désir de communion, à ce pourquoi nous sommes faits, et nous met finalement dans une impasse. Et combien de fois on vit, hein, on rentre alors dans des comportements sécuritaires, etc. Bon. Et qu'est-ce que vient faire le sacrement de la miséricorde? Eh bien, il vient nous ouvrir un avenir, alors qu'on pensait qu'il était bouché. Vous voyez, la personne que je vous disais tout à l'heure, qui voyait sa vie complètement bouchée, alors je suis victime, hein, c'est pas possible, voilà. Alors que Dieu nous rend cette liberté, tu peux agir comme sujet, être maître de ta vie, dans cette dépendance avec Dieu, avec l'Esprit Saint, bien sûr, hein, mais être maître et être un sujet du coup moral qui va pouvoir répondre de sa vie. Vous voyez? Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une amoralité, hein, ce que j'ai dit par rapport à la loi, mais c'est de rentrer à cette source. Est-ce que tu accueilles la vie? Est-ce que tu accueilles l'amour? Est-ce que tu ouvres cette porte? Eh bien, voilà un petit peu là où je voulais vous amener un peu ce matin. Enfin bon, je fais qu'un tiers de ce que je vais dire, c'est pas grave. Mais je crois qu'il fallait l'expliquer. Je sais pas, j'espère que c'est assez clair. Hein? De cette grâce que nous donne et le sacrement de la confession va nous aider à rentrer dans le concret. Mais dans cette source, s'il n'y a pas cette source, s'il n'y a pas cette contemplation, cette vision de la miséricorde de Dieu, on ne comprendra rien. Alors à partir de ce que j'ai dit, vous pouvez reprendre toute cette pédagogie de l'Ancien Testament qui est extraordinaire. Dieu qui tire son peuple, avec Abraham déjà, de cette impossibilité de vivre en vie fraternelle au milieu d'eux, et qui le tire de ses sécurités, de ses idolâtries, va pour toi-même. Et la vie. Ensuite, le peuple qui est avec Moïse, soumis à un pouvoir extérieur, à l'oppression. Il vit comme victime, c'est moins qu'on puisse dire, là, dans son bidonville, à Ramsès et puis l'autre ville, là. Et Dieu qui vient le libérer en donnant une loi, en donnant des lois, des paroles de vie qui vont le libérer, en montrant cette finalité. Et puis avec les prophètes, cette intériorisation très forte, ce sentiment, oui, Dieu nous a donné une loi, mais on n'arrive pas à vivre vraiment dedans, on n'arrive pas, on est ce champ de bataille à l'intérieur. Et du coup, les gens sont effarés par l'Ancien Testament, parce que finalement, on a l'impression que c'est un échec, finalement, c'est le mal qui triomphe, c'est ces guerres, etc. Mais non, parce que effectivement, mais il y a cette, on découvre finalement, avec par exemple Jérémie, avec Ézéchiel, que comme dit, mon cœur est... Le cœur de l'homme, eh bien, il est malade et incurable. Les Bibles n'osent même pas traduire en général le mot incurable. Mais c'est bien incurable. Il y a quelque chose. Et il suffit d'ouvrir son poste de télé, il suffit de voir un peu les gens qui sont tous déprimés, qui disent, bon, on n'a pas d'avenir, on est une fin de civilisation, on est un fin de machin, etc. Vous voyez, de plus avoir confiance à la vie, cette puissance de mort qu'il y a dans notre monde. Et souvenez-vous, tout le thème de Jean-Paul II, contre la culture de mort. Parce que ça, c'est intéressant à repérer où c'est. Et tous ces aspects de mort, de dépression, etc., pour finalement, eh bien, oui, le cœur de l'homme est malade. Et il ne peut pas se débrouiller tout seul, à moins qu'il ouvre la porte à un cœur nouveau, à un esprit nouveau. Voyez ? Et là, c'est cette préparation extraordinaire de cette venue de Jésus, justement, qui vient nous apporter. Une année de grâce est donnée. C'est l'année de grâce, c'est l'année du jubilé. Vous êtes restaurés dans cette grâce de l'héritage, de la plénitude de l'héritage. Toutes les dettes, toutes les choses qui vous enchaînent, tous les partages, tous les à partir, vous voyez, alors chacun son patrimoine a été rogné, etc. Eh bien non, ce jubilé, c'est allez, chacun rentre dans ce patrimoine. Et Jésus vient le mettre entre nos mains. Et chaque fois qu'on va se confesser, c'est ça finalement. On accepte que Dieu nous remette tout le trésor de sa grâce dans nos mains. À nous simplement de regarder où est-ce que j'ai fait obstacle pour laisser passer cette miséricorde. Où est-ce que j'ai vécu par rapport à mes blessures, par rapport à ma convoitise, et non pas à partir de cet amour et cette qualité d'amour à laquelle je suis appelé.